Chapitre 78. 1er janvier 2003. Hier soir, ses amis lyonnais sont venus réveillonner chez lui. Ils ne l'ont pas abandonné, eux, contrairement à l'autre, l'ordure, la vicieuse, la salope. Tous dorment encore à l'étage et dans les dépendances. Quelques bouteilles de champagne vides traînent ici et là, bien que Nathalie ait débarrassé les restes du dîner avant de rentrer chez elle. Mais ils ont continué à fêter la nouvelle année toute la nuit. Il n'est que 8 heures. Emmanuel n'a pas fermé l'œil. Assis sur son canapé, un bol de café à la main, il cogite. 26 mois que Nina s'est volatilisée. Il a perdu tout espoir de la retrouver. Il est allé jusqu'à consulter des sorciers et des voyantes. Pendules, cartes, boules de cristal. Il a tout essayé, tout entendu. Qu'elle était morte et enterrée dans le puits de Dôme. Qu'elle se tairait en Irlande, à Cork, très précisément. Une adresse à laquelle Emmanuel s'est rendu. Personne ne l'y avait jamais vue. Quant à la dernière, une astrologue soi-disant réputée, elle a affirmé que Nina était si proche de la Comelle, dans un rayon de 3 à 4 kilomètres maximum, qu'elle pouvait sentir son parfum. Des charlatans prêts à lui extorquer tout l'argent possible contre des informations saugrenues. Plus aucun espoir. Elle ne reviendra jamais. Et pourquoi reviendrait-elle ici, dans ce trou à rats? Sauf si elle pense avoir le champ libre. Nina est attachée à Marie-Laure Beaulieu. Si elle apprend qu'Emmanuel est parti, elle peut revenir sur la pointe des pieds pour rendre visite à la mère d'Étienne. Et là, il la serrera. Cette pensée le fait sourire. Emmanuel compose le numéro de téléphone de ses parents au Maroc. Après 5 sonneries, c'est G qui répond.
Allô ?
Bonne année, maman. Sa mère semble réveillée. Sa voix est étrange, pense immédiatement Emmanuel.
Bonne année, mon chéri.
Finit-elle par répondre. Nina t'a appelé ?
Non, bien sûr que non.
Tu me le jures ?
Je te le jure.
Sur ma tête ?
Sur ta tête.
Dis-le, je le jure sur ta tête.
Je le jure sur ta tête.
Dis-le en entier. Je jure sur ta tête que je n'ai aucune nouvelle de Nina.
Je jure sur ta tête que Nina n'a pas appelé et que je n'ai aucune nouvelle d'elle.
Papa est près de toi ?
Oui.
Il m'entend ?
Attends, je te le passe.
J'ai pris une décision. Je quitte la France. Je vais vendre Damam. Quelques minutes plus tard, G marche seule dans le jardin qui entoure son riad. Elle pense qu'en venant s'installer au Maroc, son mari et elle ont fait preuve de lâcheté. Il fait toujours beau ici et les parfums qu'elle respire ce matin sont indéniablement enivrants. Et il y a cette lumière permanente, particulière, simplement belle. Mais elle est consciente que le véritable soleil brille là où sont nos proches, ceux qui nous sont viscéralement proches. Quand Emmanuel était enfant, elle pensait « Je pourrais cacher un corps si mon fils me le demandait. » Elle n'a jamais aimé personne autant qu'Emmanuel. Il a toujours eu grâce à ses yeux, quoi qu'il fasse. Et puis Nina est arrivée. Et G a vu son fils changer. Nina s'éteindre peu à peu et la folie poindre dans les yeux d'Emmanuel. D'abord poindre, et puis s'ancrer dangereusement. Les attitudes qu'il avait avec elle, cette obsession d'elle, la suivre, la pister, presque la traquer. Une fois, une seule, G a osé faire une remarque. Tu devrais laisser Nina tranquille. Emmanuel l'a rabroué, arguant que sa femme était très jeune, qu'elle avait besoin d'un papa. Cette réponse l'a glacée. Qu'ai-je fait? Comment l'ai-je élevée? À côté de qui ou de quoi suis-je passée? Est-ce moi qui lui ai inculqué de telles inepties? Nos enfants nous ressemblent-ils? Oui, G a agi lâchement en déménageant. 1 an après le mariage d'Emmanuel et Nina, quand leur fils a repris les rênes de la société, G a évoqué le Maroc, une nouvelle vie pour son époux et elle. Ils reviendraient souvent en France si leurs amis et familles venaient à leur manquer. Rien n'était irrémédiable, ils pourraient toujours faire marche arrière. Henri-Georges, surpris par cette proposition, s'est d'abord montré frileux, puis de plus en plus enthousiaste. Combien de fois cela nous arrive-t-il de fermer les yeux, pense G. Un enfant qui pleure trop souvent, un voisin violent, une vieille dame seule que l'on connaît de vue ou un animal maltraité. Et au lieu d'agir, de s'en mêler, on fait ses valises pour ne plus voir ni rien ressentir. Ce matin, quand le téléphone a sonné, G n'a pas pensé « c'est Emmanuel ». Elle n'a pas pensé « c'est mon fils qui m'appelle pour la nouvelle année », mais « on m'appelle pour me dire qu'il est arrivé quelque chose à Emmanuel ». Elle a presque été surprise d'entendre sa voix.
« Bonne année, maman ».
Depuis le départ de Nina, elle a conscience que la folie de son fils s'est répandue comme une maladie incurable, des métastases qui prolifèrent. Elle est allée lui rendre visite deux fois, mais elle a écourté ses séjours. À quoi bon le raisonner ? Il tourne en rond comme un lion en cage, parle seul, passe des heures au téléphone avec des détectives, marabouts et guérisseurs en tout genre. Et si G tente d'intervenir, il devient nerveux, véhément, presque menaçant, assénant toujours la même chose. Je finirai par la retrouver. Tandis qu'en son fort intérieur, G supplie le Seigneur. Mon Dieu, faites qu'il ne la retrouve jamais. Même Henri-Georges a tenté de parler à son fils. Il s'est cogné à un mur. Au cours de la conversation téléphonique matinale qu'ont eu père et fils à propos de la vente de la société, Henri-Georges a proposé une gérance. Emmanuel n'a rien voulu entendre.
Mettre en gérance, c'est garder. Vendre, c'est faire une croix. D'ailleurs, j'ai déjà reçu plusieurs offres de repreneurs.
On ne se débarrasse pas de trois générations de labeur du jour au lendemain. Et je te rappelle que j'ai encore des parts dans la société.
Je m'en fous de l'argent. Je te laisse tout, papa.
Le ton est monté entre eux. J'ai à calmer le jeu en suppliant son mari du regard. Si un jour tu es père, tu seras heureux de transmettre comme je l'ai fait avec toi.
Je ne serai jamais père.
Quand Emmanuel a fini par raccrocher, G a réexpliqué à son mari que depuis le départ de Nina, leur fils avait perdu pied. Alors il fallait le laisser vendre. C'était une question de vie ou de mort. Partir devait représenter pour lui le seul moyen de s'en sortir. Et la vie de leur fils était plus importante que la société. La mort dans l'âme, Henri-Georges a rappelé Emmanuel pour lui dire qu'il était d'accord, qu'il vendrait ses parts pour ne pas entraver ses projets. Ce matin, Nina déambule librement dans le refuge. Un 1er janvier. Aucun risque de croiser quiconque à part Lily, laquelle vient d'être appelée pour une urgence. Un molosse de type canet corso retrouvé attaché à côté d'une voie ferrée dans l'Allier. Lily a pris la route avec un des agents de ville. Elle ne se sentait pas d'y aller toute seule. Lily n'a peur de rien, mais là, « faudrait pas pousser mémé dans les orties !» a-t-elle gueulé en grimpant dans sa voiture. Hier soir, pour le réveillon, un bal costumé était organisé au foyer municipal de la Comelle, le contraire d'un bal masqué vénitien. Tous avaient acheté leurs déguisements au marché aux affaires ou trouvé d'anciennes chemises de nuit, robes et costumes d'ancêtres au fond des armoires. Masque en plastique à l'effigie de Bernadette et Jacques Chirac, boa, maquillage fait maison, un truc pour rire. Un orchestre régional, une raclette géante, des gobelets en plastique, des cuirs à volonté au crémant de Bourgogne. Lily a traîné Nina de force. « Crois-moi, personne te reconnaîtra !» Elle l'a affublée d'une robe de hippie, une relique de ma mère, a posé un loup multicolore sur ses yeux et une perruque blonde sur sa tête. Une relique de mon ancienne vie. « Tu as porté des perruques blondes, Lily ?»« Eh oui. » »« Tu ne m'as jamais parlé de toi avant le refuge. Je viens de Nogent, moi. »« C'est où, Nogent ?»« Pas loin de Paris. » Une fois de plus, Lily ne s'est pas étendue. Elle a enfilé une tenue verte et une cagoule de Shrek sur la tête, ce qui a fait rire Nina comme elle n'avait pas ri depuis très longtemps. Elle aurait aimé que Lily lui raconte, mais Nina sent que son passé est une zone interdite. Un jour, entre deux sandwichs, tandis qu'elles déjeunaient toutes les deux, Lily lui a dit « Je ne te parlerai pas d'avant, ma Nina, parce que c'est dégueulasse et même pas drôle. Le jour où j'ai quitté mon ancienne vie, j'ai tout jeté. Changer de vie, c'est déménager. Et le présent, il faut le faire briller comme un sou neuf. Si tu savais comme j'apprécie chaque seconde de ma fichue existence. » Lily vit seule. Parfois, un homme passe la nuit chez elle. Nina ignore qui il est, ne l'a jamais croisé. Quand Lily l'évoque, elle dit juste « Ce soir, j'ai mon croustibat qui vient passer la nuit ici. » « C'est quoi un croustibat ?» lui a demandé Nina la première fois. « Un vieil amant, On ne se promet rien, on ne se compte pas fleurette, mais on se respecte et on prend du bon temps ensemble. Fin de la discussion. Et Nina n'est pas du genre à insister. Cela fait 26 mois qu'elle se cache au refuge. Parfois, elle demande à Lily. Jusqu'à quand, tu crois? Jusqu'à ce que tu te sentes prête. Mais je... Ne te mets pas Martel en tête. Quand tu te sentiras prête, tu partiras. En octobre dernier, la jeune femme brûlée vive à Vitry-sur-Seine a horrifié et terrifié Nina. Si Emmanuel me retrouve, il me fera la même chose. À la suite de ce tragique événement, Nina l'a à nouveau sentie en pleine nuit, comme s'il était penché au-dessus d'elle pour l'anéantir. Au fond, se dit-elle, quand elle a choisi de disparaître de la surface de la terre, c'était pour répondre au désir obscur de son mari. Alors hier soir, bougée sur la Macarena et Free From Desire, revisitée par un orchestre musette, affublée d'une longue robe jaune à fleurs vertes et d'une perruque blonde synthétique, lui a offert une parenthèse salvatrice. Une respiration. Lily Schreck et elle ont dansé jusqu'à 4h du matin, enchaînant les chorégraphies les plus improbables sur le sol stratifié du foyer municipal. 200 personnes les entouraient, toutes plus ivres les unes que les autres. Personne n'a prêté attention à personne. Cependant, Nina n'a jamais ôté son loup. Libérée quelques heures mais pas libre, toujours une voix en elle qui lui hurle de rester sur ses gardes. Il est midi lorsque Lily rentre de sa virée, le molosse au bout d'une laisse. Elle vient de redéposer l'agent de ville chez lui. Le canet corso est impressionnant. Nina s'approche d'eux. Il est gentil ? Il a l'air. En général, ces gros-là, ce sont les plus faciles, répond Lily. Il est identifié, mais ni le numéro de téléphone ni l'adresse ne sont valides. « D'où tu viens, toi ?» demande Nina à l'animal. Le chien grogne, et avant que Lily ait le temps de tirer sur la laisse et Nina de reculer, il lui attrape le mollet et referme sa gueule dessus. Malgré les suppliques de Nina, Lily l'emmène aux urgences. Elle lui a fait un garrot au niveau du genou. L'hôpital le plus proche est à Autun. « Parle-moi !» lui hurle Lily. « Ne t'endors pas !» Nina ne peut s'empêcher de rire tout en essuyant des larmes de douleur. « Je risque pas de m'endormir, ça me fait un mal... de chien. » Une heure après, un interne fait deux vaccins à Nina. Contre le tétanos et la rage, parce qu'elle ignore où se trouve son carnet de santé. Ensuite, il recoue sa blessure qui est profonde. Dans un premier temps, une infirmière devra changer ses bandages quotidiennement. Plus possible de se cacher. Nina a été obligée de décliner son identité. Et Lily a dû s'expliquer sur l'origine de l'animal dont on ignore tout. Elles n'ont pas encore quitté l'hôpital que l'info est transmise. Nina Beau est passée aux urgences d'Autun.